12 ans, loup-garou.
Sarah, 11 ans, sorcière.
Aaron, 10 ans, la dame blanche.
Majda, 11 ans, zombie.
Marty, 10 ans, vampire.
Maïr, 9 ans, dragon.
Jeanne, 10 ans, fantôme.
Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission.
Avec les enfants de l'école de Brou.
Bonjour, vous écoutez Radio B, les bonnes ondes.
Mais surtout les ondes qui font frissonner.
Aujourd'hui, nous allons parler d'épouvante.
Participez à notre quiz sur les créatures fantastiques.
Partez à l'aventure grâce à notre fiction.
Et découvrez notre interview de Jimmy et Hortense, nos animateurs pour l'atelier Radio B.
Avec les enfants de l'école de Brou.
Pour commencer cette émission, nous allons parler de créatures fantastiques.
C'est des créatures que des gens ont imaginées.
Elles n'existent pas.
Quelle créature fantastique vous effraie le plus ?
Quelle créature fantastique te fait le plus peur ?
Le dragon.
J'irais les loups-garous.
Les vampires.
Fantômes.
Les monstres.
Les gobelins.
Le yeti.
Monstre du Loch Ness.
Gollum.
Le dahu.
La dame au serpent sur la tête.
Le joker.
Et le chien à trois têtes.
Que ferais-tu si tu croisais cette créature dans la rue ?
Je crie. Je pense que je me mettrais à pleurer et je courrais pour me cacher.
Je cours, je me sauve, je fais le marche arrière, je monte dans ma voiture.
Je rentre chez moi, au plus vite.
Je partirai dans l'autre sens.
Bah je me sauve.
Je passe entre ses jambes.
Bonjour, le caresser.
Je le saisirai, je serai très gentil avec lui pour pas qu'il m'attaque.
Je serai surprise, je rirai et puis ma foi je croiserai le chemin.
Ça en fait des créatures à découvrir.
Et ce n'est pas fini.
On repart à la découverte d'autres monstres.
Avec notre quiz.
Avec les enfants de l'école de Brou.
Vous êtes bien sur Radio B, les bonnes ondes.
Bienvenue dans notre quiz.
On vous a préparé des questions sur les mythes des créatures fantastiques.
Voici notre première question.
Qu'est-ce qu'un cyclope ?
C'est un géant avec un grand œil.
Cette question était facile, mais connaissez-vous l'origine et le sens du mot cyclope ?
C'est un mot grec qui veut dire œil rond.
Les cyclopes ont-ils vraiment existé ?
Non, ils n'ont jamais existé.
Savez-vous comment est né ce mythe ?
Il est né grâce à un fossile retrouvé en Sicile. C'était un grand crâne avec un trou au-dessus de la mâchoire, comme si la créature avait un grand œil. Il s'agissait en fait d'un crâne d'un éléphant nain et le trou était sa cavité nasale.
C'était les questions-réponses de Marty et Majda.
Merci pour toutes ces informations. Moi, Wael et Majda avons une question à poser.
Charib et Scylla sont des monstres à des associés. Charib, la première, est un tourbillon géant. Scylla, la deuxième, est un monstre géant et ressemble à un dragon à plusieurs têtes.
Selon vous, que signifie tomber de Charib dans Scylla ? Réponse A. Faire une grosse chute. Réponse B. Réussir à faire quelque chose d'impossible. Réponse C. Réussir à se sortir d'un danger pour tomber sur un danger plus grand.
C'est la réponse C. Car les marins qui arrivent à échapper au Charib tombent ensuite sur le Scylla.
Ils sont donc loin d'être tirés d'affaire. Merci pour cette question. Aaron et Maïr vont nous parler d'une créature fantastique.
Le serpent arc-en-ciel est une créature extraordinaire. À quoi ressemble-t-il ? Réponse A, un python. Réponse B, un crocodile. Réponse C, un caméléon.
C'est la réponse A, un python.
Quand il est sorti de terre pendant la saison sèche, des montagnes se sont formées. Il se réfugie sous la boue craquelée. De quel pays vient-il ? Réponse A, d'Italie. Réponse B, d'Australie. Réponse C, d'Espagne. Réponse D, du Vietnam.
C'est la réponse B. Il vient d'Australie.
C'était notre dernière question.
On espère que notre quiz vous a plu.
Et que vous avez appris de nouvelles choses.
Merci de nous avoir écoutés.
C'est un sacré bestiaire tout ça.
À présent, c'est l'heure de notre interview.
Pour en savoir plus sur la peur, nous avons questionné nos animateurs d'atelier radio.
Écoutons la première partie de cette interview.
C'est parti !
Réponse !
Avec les enfants de l'école de Brou.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Hortense et je suis stagiaire Radio B.
Ben bonjour, moi c'est Jimmy, ben vous me connaissez bien parce que je fais l'atelier avec vous. Hein. Je travaille à la radio du coup et on fait l'atelier tous ensemble. Je suis technicien réalisateur radio et sinon à côté de ça j'aime bien les jeux et l'épouvante et ce genre de choses.
Quelles sont vos pires frayeurs ?
Alors c'est assez commun mais j'ai peur un peu des araignées, des insectes, tout ce qui est rampant, un peu de l'inconnu, tout ça, les espèces un peu bizarres qu'on voit pas tous les jours.
Alors moi j'ai une peur qui est intervenue au cours de ma vie, c'est la peur des chiens hargneux, donc les chiens qui aboient en fait, qui montent les crocs, tout ça. Et justement dès que j'en vois un, je fais un bond, mais ça me rappelle des mauvais souvenirs, parce que quand dans le passé, j'avais déjà rencontré des chiens en pleine nuit, et c'était un endroit où c'était pas éclairé, j'ai avancé en vélo, puis je me suis dit, ah ça serait tellement angoissant qu'il y ait quelque chose sur ce chemin-là. Puis je vois une forme qui commence au milieu de la route, je me suis dit, mais c'est quoi? J'espère que c'est juste un caillou ou quelque chose sur la route. Et puis quand j'avance, non, c'était un chien et il m'a couru après en vélo. Et depuis ce jour-là, dès que je vois un chien, je fais « Oh !»
Certaines personnes ont des peurs parfois loufoques. Vous en connaissez quelques-unes ?
Effectivement, vous l'avez un peu devant vous, mais je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai la peur des kiwis. C'est réel.
Et moi, je connaissais une personne qui avait peur des éponges sales et une deuxième qui avait peur des pigeons. Et un jour, on s'en est rendu compte parce qu'elle était dans le hall, dans une grande pièce, un hall avec des fenêtres qui voyaient sur l'intérieur. Et elle faisait « Ah, mais c'est horrible, mais cachez-moi au sommet, quelle horreur !» Et on lui disait « Mais on regardait dehors, c'était normal, c'était un jour ensoleillé, de soleil, tout ça, et on ne comprenait pas pourquoi. » Et en fait, il y avait trois pigeons qui faisaient « Pouf, 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 pouf !» Et elle disait « Ah, mais c'est horrible, mais c'est moche !» Et du coup, on a appris ce jour-là qu'elle avait peur des pigeons, mais que vraiment, ça la mettait dans une angoisse assez forte, en fait, le fait qu'il y ait des pigeons dehors.
Selon vous, c'est des peurs rationnelles ?
C'est une bonne question, rationnelle, je pense, oui. Ça peut venir peut-être d'un traumatisme qu'on a eu peut-être jeune, qui s'est développé plus tard en peur.
La peur, c'est notre cerveau qui dit « attention à quelque chose de dangereux, faut que tu t'en ailles ou que tu sois, on va dire, faut que tu te réveilles et que tu agisses, que tu fasses quelque chose ». Donc dans le cas d'un chien qui est enragé, effectivement, c'est normal d'avoir peur, sinon les gens ils leur font des câlins, ils se font mordre. Dans le cas de certains insectes, c'est normal, ils pourraient se faire piquer, ça peut se comprendre. Par contre, des pigeons, il faudra m'expliquer. Donc je pense qu'en fonction des gens, ça peut être plus ou moins rationnel.
La peur est une émotion négative selon vous. Pourquoi certaines personnes cherchent à avoir peur ?
Moi, je pense que certains essaient d'avoir peur. Ils regardent des films qui font peur, ils vont dans des manèges à sensations fortes, juste pour avoir des émotions fortes. Et donc il y a plusieurs moyens d'en avoir. Si on serait tout le temps joyeux, la joie, ça serait nul, en fait. Et l'idée d'avoir la peur, c'est qu'après, il y a autre chose, en fait. Par exemple, quand on regarde un film qui fait peur, il y a souvent les monstres, les méchants, tout ça. On a nos héros, on a peur pour eux. Et par exemple, quand il y en a qui survivent, qui réussissent à vaincre le monstre ou à s'en sortir, on est content pour eux, en fait. Et là, on éprouve une autre émotion. Et c'est peut-être ce contraste, ces montagnes russes qui fait que on sent vraiment vivant après le film. On a été captivé, on était dans le truc. On n'a pas pensé à autre chose. On a totalement déconnecté de sa vie. Et du coup, ce qui c'est bien quand on cherche à se faire peur, c'est que ça reste dans le cadre fictif, en fait. Pendant une heure, on peut avoir peur pour le personnage, il peut y avoir les pires trucs qui lui arrivent. On éteint la télé, c'est bon, c'est fini, on sait que ça n'a rien à voir avec notre vie de tous les jours et on a complètement déconnecté du reste. Ça a bien captivé notre attention.
Est-ce que tu fais des cauchemars quand tu regardes un film de terreur ?
Moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, je pense que je devais avoir votre âge, où j'ai regardé des films qui n'étaient pas vraiment destinés pour les enfants. Et après, j'y ai pensé toute la nuit, jusqu'à presque pas dormir. Mais après, c'est passé, et puis on grandit, et on essaye de voir des choses plus appropriées pour nous. Comme je sais qu'il y a des choses qui me font peur, je ne vais pas forcément les regarder. Je ne suis pas vraiment attirée par ça, mais parfois, il y a certaines émotions qui peuvent me pousser à regarder, par exemple, un film qui puisse me faire un peu plus peur. Et puis faire des cauchemars, c'est pas grave, ça passe après.
Vous avez vu ou lu quelque chose qui faisait peur dernièrement ?
Alors moi, j'ai lu une nouvelle. Une nouvelle, c'est un livre qui est assez court, de 50 pages. c'était La couleur tombée du ciel de Lovecraft. Alors Lovecraft, c'était un écrivain qui appartenait au siècle dernier, donc ce livre est sorti en 1927.
De quoi ça parlait ?
La couleur tombée du ciel, c'est quelqu'un qui arrive dans un endroit pour faire une étude, pour installer un barrage hydraulique, donc modifier la région pour qu'elle soit inondée. Et il va dans un village abandonné depuis des décennies, et il rencontre quelqu'un qui lui fait un témoignage de pourquoi ce village est abandonné. Et après, ça part dans un récit narratif, c'est-à-dire que ça explique ce qui s'est passé. Et en fait, il y a une météorite qui est tombée, et après, il s'est passé des événements un peu surnaturels, inexplicables, et les gens qui sont restés, j'ai pas plus en dire, mais il leur arrivait des choses horribles, mais c'était tout dans le descriptif, en fait.
Pourquoi ça faisait peur ?
Alors, pourquoi ça faisait peur ? Mais en fait, Lovecraft, il est très fort dans les descriptions. Il décrit avec un vocabulaire très précis et très original ce qui se passe, et du coup, autant il y avait très peu d'action dans ce qui se passait, autant on voyait vraiment au fil des mois, les gens ils tombaient malades. La couleur tombée du ciel, ça fait référence à une couleur qu'on ne connaît pas. Et ça met vraiment un univers où on se dit « Mais j'ai vraiment pas envie d'être là-bas, je préfère voir des choses concrètes, des monstres bien visibles, que ce truc où on sait pas trop ce qui se passe, les gens s'effritaient. » C'était une espèce d'ambiance totalement, on va dire, inconnue. C'est une espèce de nouveauté, de choses où on sent que l'instinct de survie dit « Il faut absolument partir », mais où les gens ils restent quand même. Et cette ambiance justement très pesante tout le long de la nouvelle.
Merci à Jimmy et Hortense d'avoir répondu à nos questions.
Tout le monde a ses propres phobies. Quelles sont les peurs les plus répandues ?
Pourquoi a-t-on peur du noir ?
Écoutons quelques réponses à ces questions.
Quelle est ta pire frayeur ?
Ce sont les chauves-souris.
Les pigeons.
Voir une souris ou un rat.
Les araignées, je déteste ça.
Avoir un serpent sur moi.
Le diable.
J'aime pas Dracula.
Les clowns. Les monstres.
Il y a quelqu'un qui va venir derrière moi.
Être enterrée vivante.
La claustrophobie.
Moi quand je monte dans l'ascenseur.
Le sang.
Les brûlures.
Le noir.
Selon toi, pourquoi certaines personnes ont peur du noir ?
Parce qu'on voit pas ce qui se passe, donc c'est effrayant.
On est perdu de tous nos repères.
Parce que peut-être ils sont pas tranquilles dans le noir, ils ont besoin d'une lueur de lumière.
Parce qu'elles y imaginent des choses qui se déroulent dans le noir, alors que lorsqu'elles sont en pleine lumière, elles voient autour d'elles et ça les rassure.
Parce qu'on peut imaginer plein de choses dans le noir.
Le noir, c'est noir. Hein. C'est une couleur sombre. Mais dans un endroit très sombre, qui est presque noir, on craint parce qu'on a peur de faire des rencontres.
Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il pourrait y avoir caché dans le noir.
Ils ont peut-être peur qu'il y ait un monstre caché sous le lit.
Ça y est, c'est comme si on était dans un vide.
Parce qu'ils sont tout seuls.
À l'école de Brou, on est très courageux.
On a même écrit notre propre histoire d'épouvante.
Même pas peur.
Et vous, auditeurs, arrivez-vous à l'écouter sans trembler ?
Action !
C'est l'histoire de Nina, Yanis et Jean-Claude. Trois adolescents aventureux qui se promènent dans la forêt. Soudain, un croassement de corbeaux attire l'attention de Nina. À travers les arbres, elle aperçoit un bâtiment délabré.
Regardez, il y a un vieux hôpital là-bas. On va voir.
Je ne sais pas, ça a l'air abandonné. On ferait mieux de ne pas s'approcher.
Allez, Yanis, ne fais pas ta boule mouillée.
Cote, 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 cote. Yanis Froussard, Yanis Froussard.
Les trois adolescents s'approchent de l'hôpital et regardent par la fenêtre. À l'intérieur, ils distinguent des ombres mouvantes.
Vous avez vu ? Il y a quelque chose qui bouge là-bas !
On devrait peut-être pas entrer.
Mais Jean-Claude et Nina ouvrent tout de même la porte.
Viens, il ne peut rien nous arriver de mal.
Une fois à l'intérieur, Yanis frémit. Le lieu est lugubre et crasseux. Une odeur de renfermé irrite ses narines. Le plancher grince à chacun de ses pas. Mais un autre bruit attire son attention. Il provient d'un grand escalier. Un sifflotement.
C'est quoi ça ?
On ferait mieux de se cacher.
Saisis de peur, les explorateurs se réfugient dans une pièce au fond du couloir. C'est un atelier de peinture. De nombreuses toiles représentant des paysages et des randonneurs sont en cours de création. Le lieu est rempli d'affaires en tout genre. Des sacs à dos de voyage, des valises, des lampes de poche, des vieux appareils photo. Yanis blêmit. Il fait un pas en arrière et renverse une pile de vieilles cartes d'identité.
Au même moment, le groupe effrayé entend des rires provenant de la pièce voisine. Puis des voix enfantines.
Voulez-vous venir jouer avec nous ?
Oui, venez jouer avec nous.
Et rejoignez-nous vite avant qu'elle ne vous trouve.
Attention, elle arrive. Depuis le couloir, les ados apeurés distinguent des bruits de pas, suivis d'un nouveau sifflotement. La porte de l'atelier se met à grincer. Elle s'ouvre lentement.
Cachons-nous là !
Les trois explorateurs ont tout juste le temps d'entrer dans un placard. Quelqu'un vient d'entrer. Une odeur pestilentielle envahit la pièce.
Je vous ai vu. Où êtes-vous passé ?
Nina jette un regard à travers l'ouverture de la porte. Une infirmière vieille et sale se tient de l'autre côté de la pièce. Sa peau est très pâle et de longs ciseaux sont attachés à sa ceinture. Elle fouille partout frénétiquement. À la vue de celle-ci, Nina laisse échapper un cri. L'infirmière putride se retourne, s'approche et ouvre le placard.
Ah, vous êtes là.
Un air satisfait narquois se dégage de la sinistre infirmière. Jean-Claude sue d'effroi. L'adolescent se recroqueville au fond du placard. Il n'est pas en bois, mais en brique. L'une d'elles s'enfonce de quelques centimètres. Tout d'un coup, la paroi coulisse de 180 degrés. Et le groupe se retrouve devant un long couloir éclairé par des bougies. C'est un passage secret. De l'autre côté du mur, l'horrible infirmière les interpelle.
Revenez, vous n'avez rien à faire là.
Les ados n'ont pas besoin de se concerter pour prendre leurs jambes à leur cou. Ils courent jusqu'à la table d'une porte vitrée. Ils peuvent distinguer le jour à travers elle. Une fois sortis, ils tombent nez à nez avec un grand infirmier. Il tient de nombreuses seringues dans ses mains.
Mais vous n'avez pas payé votre billet d'entrée pour le manoir hanté ? Ça fera 4 euros chacun.
Les trois amis sont exténués, mais ils trouvent la force de reprendre leur course effrénée. Aucun d'eux n'avait de monnaie sur lui.
C'est vrai que la voie commençait ce vendredi ?
On saura grâce à Nina, Yanis et Jean-Claude qu'il ne faut pas rentrer dans des endroits abandonnés.
Pour se faire peur, on peut aussi jouer à des jeux.
On a questionné notre animateur Jimmy sur la question.
Avec les enfants de l'école de Brou.
Jimmy, tu joues souvent à des jeux de plateau effrayants. Peux-tu nous en présenter quelques-uns ?
Alors moi, effectivement, j'aime beaucoup jouer à des jeux de société. Et des fois, il y a du fantastique dedans et carrément des choses qui font peur ou de l'horreur. Donc, je pourrais parler de Zombicide ou The Overs. C'est un jeu avec des tuiles où il y en a des personnages avec plein d'armes qui doivent se déplacer. Et ils ont des missions diverses à faire, et tout le long du jeu, il y a des monstres qui apparaissent. Alors Zombicide, c'est plus un jeu, plus vraiment action, où on va dégommer du zombie à l'appel. Et The Overs, c'est l'inverse. On sait qu'à chaque mouvement, il peut y avoir une créature qui va nous tirer dessus, et on pourrait se faire dégommer en une seule action, en fait. Donc c'est un jeu où il y a vraiment beaucoup de dangers. Et je peux vous citer d'autres jeux, Room 25, si on est dans un complexe, un ensemble de cellules enfermées, on doit trouver la sortie. Et à chaque fois qu'on ouvre une pièce, hop, il y a des salles enflammées, il y a des bains d'acide, des choses très dangereuses.
Il y a des monstres dans ce jeu ?
Eh bien, ça dépend des jeux. Dans Zombicide, il y a tous les zombies qui sont déclinés sous toutes leurs formes. Il y a des gros qui marchent lentement, il y a des petits qui courent, une abomination qui a un gros boss bien mastoc. Dans The Overs, pareil, il y a le même bestiaire avec un démon d'un des sept péchés, genre la paresse, la luxure, l'envie, qui est matérialisée. Donc, c'est une figurine qui est comme ça. Et ben, du coup, comme on a une figurine de 3 cm et qu'eux, ils ont une figurine de 7 cm, quand on voit la figurine, tu dis « Oh mon Dieu !» Et dans Room 25, il n'y a pas de monstres à proprement parler, il y a juste des salles extrêmement dangereuses ou la notion qu'il peut y avoir des traîtres parmi nous.
Ça fait peur d'y jouer ?
Eh ben, ça dépend. Le Zombicide, le délire, c'est qu'on doit atteindre un point B en général. On est bien armé, les zombies, on les dégomme à la chaîne. Ça fait pas du tout peur, c'est très satisfaisant en fait, c'est rigolo. Du coup, là, il n'y a pas de peur dans celui-là, dans The Overs. Il y a le fait que comme tu peux avancer à n'importe quel moment, tu sais que ton action est très punitive, tu peux être éliminé, ton personnage peut être éliminé. Là, tu commences à avoir peur, t'hésites, on fait une action. T'as une petite appréhension un peu irrationnelle qui disent « je vais jouer très prudemment ». Room 25, comme c'est un peu un jeu avec d'autres gens, t'as pas peur. Ça t'embête juste que si quelqu'un te trahit et te pousse dans un truc qui fait que tu perds la partie. Mais c'est pas plus de la peur, c'est plus de la suspicion, pas de la paranoïa, mais un doute et qui se met en place.
Comment la peur peut être implantée dans la mécanique d'un jeu ?
Ah bah là, il y a plein de moyens de faire. Dans Room 25, je vous disais, il y a des rôles cachés. On ne sait pas qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. On est suspicieux entre nous, on se méfie. La peur, elle vient du fait qu'on n'a pas confiance les uns les autres. Zombicide, elle vient du fait que du nom. Parce que autant les zombies, on les dégomme facilement, autant quand il y en a 10 devant nous, on sait que mathématiquement, on ne pourra pas les passer. Là, c'est le danger imminent qui s'installe. Et The Over, c'est plus de l'ambiance dans le sens que n'importe où on va, on sait qu'on peut se faire tomber dessus et perdre instantanément la partie. Donc, c'est une peur du danger et surtout du fait qu'on n'est pas très fort face à ça. Et il y a plein de jeux justement qui jouent sur le fait que les personnages ou ce qu'on fait, en fait, on n'est pas des gens forts et que ce qui est en face de nous, on sait qu'il est beaucoup plus fort que nous et qu'il faut qu'on soit stratégique et que si on fonce sans tête baissée, on va tout simplement perdre la partie ou on va avoir des gros désavantages en fait.
Qu'est-ce qui fait qu'un jeu est adapté aux enfants ?
Alors, moi j'ai envie de dire, c'est pas qu'il fasse peur ou pas, parce qu'en général, on pense à l'inverse un jeu. On fait le jeu, on se dit, mais en fait, mon jeu, il est destiné à quel public niveau complexité ? Est-ce que les règles sont compliquées ? Est-ce que c'est fun à jouer ? Est-ce que ça demande beaucoup d'attention, de concentration ? Et après, on essaie de mettre un univers cohérent par rapport à ce qu'on a fait en fait. Donc, les jeux pour les enfants, c'est plutôt des jeux qui seront pas excessivement long, donc pas un jeu de 5 heures par exemple où il faut rester 5 heures à se concentrer. Pas un jeu où il faut expliquer les règles pendant 2 heures, où il faut beaucoup de savoir, retenir beaucoup de choses. Il faut que ça soit plus simple et c'est plutôt ça qui fait que les enfants peuvent y jouer.
Merci Jimmy pour ces explications.
C'est déjà la fin de notre émission.
On espère que notre émission vous a fait sursauter.
Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Au revoir.
Waël, 11 ans, loup-garou.
Sarah, 11 ans, sorcière.
Aaron, 10 ans, la dame blanche.
Majda, 11 ans, zombie.
Marty, 10 ans, vampire.
Maïr, 9 ans, dragon.
Jeanne, 10 ans, fantôme.
Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission.
Avec les enfants de l'école de Brou.